Alors ce soir, toujours dans les pas d'Alan Vega et Suicide, on poursuit notre exploration de l'électropop et du rock industriel des années 80 et 90. Et pour ça, comment ne pas commencer par eux ? Reach out, touch base. Personal Jesus, une des chansons les plus connues, sinon la plus connue, du groupe Depeche Mode sur France Inter. Elle remonte à l'année 1990 et à l'album Violator. Certains la connaissent peut-être pour d'autres raisons. Le regretté Johnny Cash l'a en effet chanté au milieu des années 90 dans son célèbre album American Recordings, qui a été le disque de sa renaissance. Il faut dire que Johnny Cash, il a été capable de donner un poids et une résonance très particulier à ses paroles écrites par un garçon qui avait alors quoi, tout juste 30 ans à l'époque et dont il aurait pu être le père. Son nom, le nom du compositeur de la chanson, c'est Martin Gore, le compositeur de Depeche Mode. Alors, dans cette chanson, il y a pour ainsi dire deux points de vue contradictoires mais qui se rejoignent. D'un côté, il y a un appel à l'aide et de l'autre, une sorte de désillusion cynique. En fait, les paroles de la chanson, elles mettent en scène une sorte de publicité imaginaire pour une secte chrétienne évangélique indéterminée ou peut-être peut-être plus simplement un prêcheur à la télévision, hein, comme on en voit sur certaines chaînes de télé aux États-Unis. Alors voilà, votre Jésus personnel est là pour vous aider, il écoutera vos prières. Allez, prenez votre téléphone et vous verrez, vous allez croire, vous avez des choses à confesser, moi je suis là pour vous soulager, téléphonez-moi. En fait, c'est une chanson assez subtile où Martin Gore et Depeche Mode évoquent cette tentation finalement qu'on a tous quand le désespoir nous envahit de recourir à des solutions faciles. Parce qu'en fait, enfin c'est mon interprétation, téléphoner à son Jésus personnel, ce peut être tout simplement appeler dans certains cas son dealer, hein, un simple coup de fil et le problème réglé, ou même voilà la bouteille au fond du bar. Depeche Mode est peut-être pas le premier groupe à avoir rendu l'électropop populaire. Il y en a eu d'autres qu'on a entendu hier, mais enfin, ce qui est frappant, c'est que c'est un des groupes qui est devenu populaire en abordant dans ses chansons des années 80 et les suivantes le côté sombre de la nature humaine, la question de l'aliénation, du mal, de la souffrance. Et ce qui est intéressant au fond dans l'électropop, de façon générale, c'est que comme le dieu Janus, tout en étant une, elle a en fait un double visage. Parce que d'un côté, bon, c'est vrai, on danse, on chante, hein, on fait la fête, et c'est vrai, plein de tubes de cette période sont faits pour ça, j'en ai passé quelques-uns, comme Tainted Love de Soft Cell hier soir. Et puis de l'autre côté, on montre l'angoisse, le malaise et la terreur, avec exactement les mêmes armes électroniques. Et les musiciens qui incarnent le côté joyeux de l'électropop sont très souvent les mêmes que ceux qui expriment son côté désespéré. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un artisan central de l'électropop dans le monde. C'est le producteur artistique et ingénieur du son anglais Mark Ellis, beaucoup plus connu sous son surnom de Flood. Hein, Flood, ça veut dire déluge en anglais. Et ce spécialiste des sons électroniques est, en fait, depuis très longtemps, le collaborateur privilégié de Depeche Mode, groupe plutôt pop. Il a commencé très jeune, à 20 ans, auprès de New Order, et puis il a travaillé aussi avec le très joyeux Erasure. C'est un duo qui a été créé par un des fondateurs de Depeche Mode, Vince Clarke. Et Erasure, c'est un duo qui est très réputé pour ses chansons lyriques, mélodieuses et romantiques. Mais en fait, d'ailleurs, enfin, dans les années 80-90, Flood a été absolument partout. Il a travaillé avec Brian Eno sur l'album The Joshua Tree de U2, c'était en 87, mais également aux États-Unis avec des groupes extrêmement durs, extrêmement sombres, comme Ministry et Nine Inch Nails, qu'on écoutera tout à l'heure. Sans oublier les Smashing Pumpkins. Et puis encore très récemment, PJ Harvey, dont il est le collaborateur privilégié. Ah oui, et puis j'oubliais aussi Nick Cave. Alors on peut considérer ce programme comme un hommage à l'influence de Flood, parce qu'on oublie souvent que derrière les groupes, derrière les chanteurs, il y a des artisans du son et des ambiances, sans lesquels, eh bien, ces musiciens ne seraient rien. Et parmi les premières collaborations de Flood, on peut relever au tout début des années 80 un groupe extrêmement dur venu de Sheffield, l'ancienne capitale de l'acier, hein, au nord de l'Angleterre. C'est un groupe très étrange qui s'appelait Cabaret Voltaire. Un Cabaret Voltaire, parce que le Cabaret Voltaire, c'était le nom de ce café à Zurich où pendant quelques mois de l'année 1916 se réunissaient autour du poète Tristan Tzara des membres du mouvement dadaïste. Cabaret Voltaire, le groupe anglais nommé d'après ce lieu légendaire, a commencé à donner des performances dès la fin des années 70. Elles avaient lieu en général dans des usines désaffectées. C'était des concerts, enfin des concerts, si on peut dire, des concerts, voilà, de bruit distordu, strident, sur fond de rythmes oppressants. Et ces espèces de happening sonore effrayant ont valu d'ailleurs à l'animateur de Cabaret Voltaire, Stephen Malander, d'être physiquement agressé par des membres du public. Il s'est même retrouvé une fois à l'hôpital, tellement il cherchait à susciter la violence et la confrontation, tout à fait comme Alan Vega et Suicide dans ces années-là. Et pourtant, en 1983, Cabaret Voltaire a enregistré des disques très accessibles. Assisté par le tout jeune Flood, Stephen Malander a réalisé une chanson très dansante intitulée Sensoria. Alors vous allez l'entendre si vous prêtez l'oreille. Il y a les voix d'un documentaire sur le Ku Klux Klan et des chœurs zoulous. Et on peut considérer ce titre comme un des premiers exemples historiques, voire un des actes de naissance de la musique de danse électronico-industrielle. Cabaret Voltaire, Sensoria.
Do right. Always work. Shout! Very Good Trip sur France Inter.
Murderous, c'était le groupe anglais Nitzer Ebb en 1987, un groupe qui a eu pas mal d'impact sur ce qu'on a appelé l'EBM, EBM, l'Electronic Body Music dans ces années-là. Bon, alors les étiquettes, les spécialistes aiment bien en inventer une nouvelle chaque semaine et en général ça dure pas. Mais là, bon, c'était une façon de définir une tendance de plus en plus marquée chez certains groupes, des rythmes très mécaniques et oppressants, une certaine dureté, des thèmes morbides et une façon de chanter, de danser sur scène extrêmement agressive. Nitzer Ebb était animé par Bon Harris, un garçon qui jouait du synthétiseur et chante. Alors, inutile de le préciser, l'ingénieur du son et producteur artistique Flood l'a croisé plus d'une fois sur sa route. Martin Gore de Depeche Mode et l'américain Billy Corgan du groupe Smashing Pumpkins aussi. Mais enfin, la collaboration principale de Bon Harris, c'est, d'ailleurs je ne le savais pas, c'est avec l'américain Marilyn Manson. Il a même été pratiquement membre à part entière de son groupe il y a une quinzaine d'années environ. Et aujourd'hui, Bon Harris, qui régulièrement se reproduit avec Nitzer Ebb, vit à Los Angeles où il réalise des musiques pour le cinéma et la télévision. Alors à présent, on va faire un petit pas de côté avec un groupe que j'aime beaucoup, qui est le groupe anglais Wire, un groupe londonien qui, à la fin des années 70, a creusé une brèche dans le rock de l'après-punk, en mêlant d'une façon très très originale et très étonnante, rythmique froide, psychédélisme lancinant et répétitif, et mélodies acides, souvent d'ailleurs interprétées par le chanteur Colin Newman d'une voix distante, métallique, un peu comme celle de Brian Eno. Et puis, une dizaine d'années plus tard, au tournant des années 80 et 90, Wire s'est, pour ainsi dire, réinventé et a accompagné d'une façon aussi singulière et originale ce mouvement électro-industriel. Ce remix berlinois de leur chanson The Drill que je vous propose remonte à 1991. Drill en anglais, ça veut dire exercice militaire. Ensuite, vous entendrez une curiosité que je suis très content d'avoir exhumée. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure.
Does it fit? Is your mind free? Empty? cheap or spiff. We're milling through the grinder, we're grinding through the mill. If this is not an exercise, could it be a...
Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill. Drill, drill, drill.
Good Girls, en un seul mot, je ne sais pas pourquoi, un titre étonnant entre électro-industriel et psychédélisme d'un duo qui s'appelait Die Warzau. Alors je vous rappelle qu'on explore un peu dans le sillage de Alan Vega et Suicide un peu toutes les ramifications de l'électropop et de la musique industrielle dans les années 80-90 et suivantes, hein, vous entendrez ça demain, les années 2000. Alors comme son nom ne l'indique pas du tout, le groupe Die Warzau était apparu à Chicago à la toute fin des années 80. Et d'ailleurs, quand on voit les photos, hein, ces deux gars avec des dreadlocks décolorés, peroxydés et un grand bandeau dans les cheveux, genre Axl Rose, hein, de Guns N' Roses, c'est impossible de se tromper sur la période. Le titre qu'on a entendu, il est un peu plus tardif, enfin, que l'image que j'ai vue là de Die Warzau, puisqu'il remonte à l'année 1995. Il est extrait du dernier album publié par ce groupe, enregistré pour une compagnie de disques qui s'appelle Wax Trax. Alors, basé à Chicago, Wax Trax a été la grande plaque tournante de la musique électronique industrielle aux États-Unis, hein, sous ses incarnations à la fois les plus aimables et les plus sombres. Wax Trax a diffusé aux États-Unis des groupes originaires du monde entier, notamment le groupe belge Front 242, hein, que je regrette de ne pas pouvoir diffuser cette semaine, mais enfin parfois on est obligé de privilégier l'harmonie d'ensemble au détriment de certains monuments, et j'en suis sincèrement désolé. D'ailleurs, même remarque pour les Français de Trepon Impale, très important aussi dans cette mouvance. On va retrouver à présent un membre de Die Warzau, Jim Marcus, cette fois associé à d'autres musiciens de la mouvance industrielle. Il y a le batteur anglais Martin Atkins, hein, qui avait lancé à Londres dès la fin des années 70 le groupe Public Image Limited avec l'ancien chanteur des Sex Pistols John Lydon. On y trouve aussi le Canadien, alors un drôle de nom celui-là, enfin c'est un nom avec les lettres à l'envers, Nivek Ogre, hein, Ogre comme un ogre, fondateur d'un des groupes phares du genre, Skinny Puppy. Et à l'occasion d'une tournée où il accompagnait le groupe américain Ministry, hein, on en entendra tout à l'heure, Martin Atkins avait décidé de réunir différents musiciens présents pendant la tournée pour créer un groupe de circonstances. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le mouvement de la musique industrielle, c'est une petite internationale où tout le monde se connaît plus ou moins et où des musiciens originaires du monde entier collaborent volontiers, un peu à l'image de ce qui se passe dans le jazz. C'est d'ailleurs vrai aussi dans le cas du métal, qui a d'ailleurs pas mal de points en commun avec la musique industrielle. Bref, dans les années 90, toute une bande a collaboré et enregistré ensemble sous le nom fort sympathique de Pigface, hein, tête de cochon. Et la chanson de Pigface s'appelle Asphole, un jeu de mots stupide entre asp, qui veut dire aspic, et asshole, bah, qui, comme beaucoup le savent, veut dire simplement trou du cul.
For the next 30 or 60 days, we urge you to play this record every day. Play side one in the morning, before you leave your home. Play side two in the evening. If you will do this, you will start the development of those traits in your personality that will enable you to make people like you, believe you, and trust you.
Process smile, union mate, the snake defiled, blue book murder, the best you could. Lesson spite, heaven twisted, candid photos intermixed in, sealing back door, mud relies, dirty corners of the mind. Faceless father, figure hairs, sitting in hide and wasted, pick yourself up off the floor, shaken angel, take it. home, it seems. Now together, a shadow writhing, your world comes crashing down.
Very Good Trip sur France Inter.
Yeah. my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod.
Yeah, fuck it.
Alors, je vous parlais des points d'accroche entre le métal et la musique industrielle. Alors, voici un exemple. Le groupe Ministry, en 1992, dans Jesus Built My Hot Rod. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est sur France Inter que est diffusée cette musique de dégénéré. Vous avez entendu la voix de son leader, leader de Ministry, Al Jourgensen. À la fin de cette chanson, il remercie, pince sans rire, Jésus de l'avoir aidé à bricoler son bolide juste avant qu'une autre voix lui dise « va te faire foutre ». Et cet Al Jourgensen, c'est un originaire de Chicago, hein, lui aussi. Et malgré son nom scandinave, en fait, c'est celui de sa famille d'adoption. Il est le fils d'immigrés cubains. Il a été marqué à ses débuts par l'électropop de Depeche Mode, hein, la grande influence de la période, et les sons électroniques des Belges de Front 242. Et à Chicago, il gravite dans cette nébuleuse de musiciens de rock industriel à laquelle se joint aussi, parmi des dizaines d'autres, Luc Van Acker, du même Front 242. Mais l'idée géniale de Jourgensen au sein de Ministry, c'est d'associer au son électronique et industriel des guitares métal, le tout sur fond d'humour noir, morbide et grinçant. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit qu'on n'avait pas le temps de passer Front 242. On peut, et on écoute Headhunter, un titre de Front 242 en 1988. We'll be right back. Headhunter, c'était chasseur de tête. C'est le groupe belge Front 242 en 1988. Un groupe associé à toute cette mouvance de rock électronique industriel. Un musicien de premier plan qui s'est associé à tout ce mouvement, en particulier à Al Jorgensen de Ministry, c'est Trent Reznor, un homme qui a révolutionné le rock alternatif américain des années 90 sous le nom de Nine Inch Nails, un ongle de 20 cm. Cet ingénieur informaticien de formation a été en effet le premier aux États-Unis à avoir su associer les sons, les thèmes et les ambiances de ce courant industriel à des chansons bien écrites et accessibles à tout le monde. Un de ses chefs-d'œuvre est en particulier ce titre très singulier, Hurt, une sorte de lamentation magnifique, de confession, on pourrait dire, sur l'enfer qu'est la vie d'un drogué. Le début des paroles dit, je cite, « Je me suis blessé aujourd'hui pour voir si je ressens encore quelque chose. Je me concentre sur la douleur, la seule chose qui est encore une réalité. » Des paroles très fortes écrites en 1994 par un homme encore jeune, 29 ans. Et cette chanson a pris d'ailleurs une résonance extraordinaire quand Johnny Cash, qui savait de quoi il parlait, l'a reprise en 2002, juste un an avant sa mort. Mais là, il s'agit de la version originale, celle de Trent Reznor, soit Nine Inch Nails Hurt.
I hurt myself. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real, the needle tears a hole, the old familiar sting. Sweet.